Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La situation au Liban, nous essayons d'apporter de l'aide à la société civile tout en ayant une approche soutenue vis-à-vis des écoles. Des mots de la sénatrice Christine Lavarde, présidente du groupe d'amitié France-Liban au Sénat. Elle a accepté d'apporter son soutien à l'association Patrimoine Tripoli-Liban qui organise un dîner le 31 mars prochain au Sénat. La sénatrice Christine Lavarde sera l'une de nos invitées. Des sanctions économiques appliquées dès ce soir de la part des pays occidentaux contre la Russie. Le président russe insiste ce mercredi sur le caractère non négociable des intérêts et de la sécurité de son pays. Vladimir Poutine, qui se dit parallèlement disposé à trouver des solutions diplomatiques dans la crise avec l'Ukraine. Regard sur les aspirations de la jeunesse à l'approche de l'élection présidentielle en France. Le pouvoir d'achat et l'écologie sont les principales préoccupations des électeurs de moins de 30 ans, selon un sondage Ipsos pour la FAGE, le principal syndicat étudiant. Nous écouterons son président, Paul Maillot. L'invité de Pluriel hier soir était Karim Amela, l'ambassadeur de France pour la Méditerranée, fondateur du mouvement citoyen Pluriel, un mouvement qui souhaite notamment favoriser le microcrédit dans les quartiers populaires, extrait dans votre édition. Il faut jeter au Liban les bases d'un filet social qui aujourd'hui n'existe pas. Un appel de la sénatrice présidente du groupe d'amitié France-Liban, Christine Lavarde. Elle a accepté d'apporter son soutien à l'association Patrimoine Tripoli-Liban qui organise un dîner le 31 mars prochain au Sénat. Objectif, lever des fonds en faveur de projets humanitaires au Liban. Christine Lavarde, présidente du groupe d'amitié France-Liban au Sénat.
Nous sommes là pour faire vivre l'amitié entre les deux pays. C'est la raison pour laquelle le groupe d'amitié s'est rendu pendant 6 jours au Liban au mois de juillet dernier, de manière à prendre connaissance de l'état réel du pays et d'avoir des échanges avec les différentes forces politiques en présence. Ainsi, et ça nous l'avons vraiment souhaité, différents représentants des institutions de la société civile. J'entends par là monde de l'éducation, monde hospitalier. Parce que aujourd'hui, l'aide que nous essayons nous d'apporter, eh bien, de l'aide à la société civile, tout en ayant une approche soutenue vis-à-vis des écoles.
Et lorsque vous discutez avec les représentants de la société civile libanaise, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans leurs propos ?
Ils aspirent à une. Quand on les écoute individuellement, chacun nous exprime son souhait de changement, de voir arriver une nouvelle classe politique, de constituer un nouvel État libanais, ou en tout cas de donner corps à cet État libanais, parce que ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, être libanais, avoir la citoyenneté libanaise, n'apporte aucun avantage. Les avantages sont apportés par les confessions, par la confession religieuse. Aujourd'hui, si vous êtes en un état de situation précaire, vous allez vous tourner vers votre groupe confessionnel qui va venir vous apporter du secours. Ce qui donne d'ailleurs une importance très forte, par exemple, au mouvement du Hezbollah, qui est doté de moyens financiers que tous les autres n'ont pas forcément, et donc lui donne une vraie importance dans l'organisation du Liban. Donc il nous semble vraiment important, et c'est aussi ce que nous avons essayé d'expliquer, qu'il faut aujourd'hui jeter au Liban les bases d'un contrat social, c'est-à-dire assortir de la citoyenneté libanaise un minimum de services en matière de santé, d'éducation et après par là même d'alimentation. Un peu un filet social qui aujourd'hui n'existe absolument pas et qui est procuré justement par le système confessionnel.
Et sur le plan culturel également, vous soutenez le Liban, vous soutenez l'association Patrimoine Tripoli-Liban. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'engagement de cette association et nous dire pourquoi vous avez choisi d'apporter votre soutien ?
C'est l'association qui est venue me demander de parrainer le prochain événement qu'ils organisent à Paris. Donc c'est une association qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui a déjà organisé des événements d'importance et qui, en essayant de mobiliser des moyens, notamment de la diaspora, cherche à contribuer au maintien du capital architectural, patrimonial de Tripoli. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans une situation économique qui est désastreuse, hein, je pense qu'on peut employer cet adjectif, le patrimoine et même le patrimoine naturel se trouve mis à mal. Hein. Encore récemment, je lisais un article sur la déforestation en cours parce qu'à partir du moment où les Libanais n'ont plus les moyens de se chauffer, ben on retourne au moyen de chauffage le plus ancestral, à savoir la combustion. Et donc là, il n'y a pas de coupe bien réglée comme on pourrait l'avoir dans une gestion des forêts. C'est on coupe les arbres les uns derrière les autres pour se procurer du bois de chauffage. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la situation économique fait que tout l'attachement au patrimoine naturel ou architectural, il n'y a plus le moyen de le faire. Donc le fait que des associations en fait viennent se substituer à l'État semble d'importance, et on l'a vu lors de notre séjour quand on a visité la ville de Beyrouth. Aujourd'hui, la reconstitution des quartiers historiques dévastés par l'explosion du 4 août est faite par des organisations internationales qui vise justement à reconstruire le patrimoine détruit et le reconstruire en venant aussi supprimer, entre guillemets, les verrues qui étaient arrivées au fur et à mesure que l'activité économique s'était faite dans ces rues. Donc pour essayer de retrouver quelque chose d'esthétiquement joli, quand on est attaché à son pays, on est aussi attaché à ce qui lui donne sa richesse architecturale, patrimoniale, qui fait venir du tourisme. Et aujourd'hui, le Liban a toujours été historiquement un pays de tourisme. C'est quand même dans la zone du Proche-Orient le seul pays qui bénéficie de telles conditions climatiques, c'est-à-dire à la fois de l'eau, des zones de montagne où la température est tout à fait acceptable, un bord de mer. Mais aujourd'hui, la vocation touristique du pays se trouve quand même, je trouve, mis à mal par le fait qu'il n'y a pas une attention forte qui est attachée à la protection de l'environnement. Enfin, moi, j'irai jamais me baigner sur les plages de Beyrouth. Enfin voilà, on n'a pas du tout les mêmes règles de protection et de conservation que ce qu'on peut avoir dans l'Union européenne, notamment aussi parce qu'on sait bien que toutes ces politiques-là, ce sont des politiques de pays riches. Aujourd'hui, le Liban est quand même dans une crise économique et sociale qui fait qu'il faut... Enfin voilà, les Libanais s'attachent déjà à la première question qui est celle de la subsistance.
La sénatrice Christine Lavarde, présidente du groupe d'amitié France-Liban au Sénat. Les premières sanctions des Occidentaux contre la Russie après sa décision de reconnaître les territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Elles concernent les secteurs financiers et de l'énergie. Le président russe insiste ce mercredi sur le caractère non négociable des intérêts et de la sécurité de son pays. Vladimir Poutine, qui se dit parallèlement disposé à trouver des solutions diplomatiques dans la crise avec l'Ukraine. Ce matin, la ministre britannique des Affaires étrangères a estimé hautement probable que le président russe veuille envahir l'Ukraine et prendre sa capitale, Kiev. Un adolescent palestinien a été tué hier par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère de la Santé à Ramallah. Mohamed Shehadeh était âgé de 14 ans. Il a été tué par des tirs à Al-Hader, au sud de Bethléem. L'armée israélienne a bombardé hier soir une ville au sud-ouest de la capitale syrienne, une frappe qui a causé des dégâts matériels. C'est la troisième fois depuis le début du mois qu'Israël bombarde la Syrie, après des frappes le 17 février contre un poste militaire du régime dans la ville de Zakia au sud de Damas, et le 9 février contre des batteries anti-aériennes en réponse à un tir de missile depuis la Syrie. Plusieurs rassemblements hier en Algérie à l'occasion du 3e anniversaire du Irak, ce mouvement populaire qui a notamment entraîné la chute de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Des militants ont été interpellés dans plusieurs villes comme à Alger, Béjaïa, Mostaganem, Ouargla, Skikda, Bouira ou encore Saïda, Tlemcen, Tizi Ouzou, Oran et Djidjel, selon le Comité national pour la libération des détenus. Le président algérien s'est entretenu hier à Doha, au Qatar, avec son homologue iranien. Des entretiens en marge de la participation des deux chefs d'État au 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Le taux d'inflation annuel au Maroc a augmenté de 3,1% en janvier 2022, cela dans un contexte de hausse des prix des matières premières à l'échelle internationale. Le Haut Commissariat au Plan indique que cette hausse de l'inflation est due à la hausse des prix alimentaires de 4,3% et des prix non alimentaires de 2,3%. Regard sur les aspirations de la jeunesse à l'approche de l'élection présidentielle en France. Le pouvoir d'achat et l'écologie sont les principales préoccupations des électeurs de moins de 30 ans. Les questions liées à la santé sont aussi une préoccupation importante. C'est ce qu'indique un sondage Ipsos pour la FAGE, le principal syndicat étudiant. Cette enquête révèle que plus de 80% des jeunes interrogés comptent aller voter en avril prochain. Entretien avec le président de la FAGE, Paul Maillot.
On a 8 jeunes sur 10 qui se disent prêtes et prêts à aller voter, mais tout de même, plus précisément 66% des jeunes qui aujourd'hui considèrent que les responsables politiques ne prennent pas suffisamment en compte leurs préoccupations, ou en tout cas leur situation également, préoccupations qui par ailleurs sont le pouvoir d'achat, le climat, l'environnement ou les inégalités sociales qui arrivent en tête, et de fait, une partie d'entre elles et eux qui se dit prêt à aller aux urnes n'en est pas certain. Et il faut absolument qu'on puisse avoir dès demain la situation des jeunes et toutes leurs préoccupations qui arrivent à nouveau, ou en tout cas qui sont réellement traitées par les candidates et les candidats, afin qu'ils puissent s'identifier et rendre aux gens le 10 avril.
Les préoccupations des jeunes sont-elles suffisamment exprimées dans les médias? Quel est leur ressenti sur ce sujet?
Non, aujourd'hui, les jeunes considèrent que leurs préoccupations, les sujets qui les inquiètent le plus, notamment les questions autour du pouvoir d'achat, des inégalités, du climat, de l'environnement ou encore de la santé, ne sont suffisamment pas traités dans les médias, dans le débat public de manière générale. C'est un jeune sur deux, en tout cas, qui ressent ça.
Ce manque d'attention des candidats vers les jeunes, c'est en tout cas un ressenti. Comment l'expliquez-vous, sachant que c'est un électorat particulièrement important et un électorat prisé par les candidats ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est très difficile à décrire, puisque, comme vous l'avez souligné, on a tout de même une personne sur cinq, en tout cas en mai l'année dernière, qui est inscrite sur les listes électorales et qui était un jeune. Et c'est quand même un poids qui pèse énormément sur le choix d'un candidat ou non. Et c'est regrettable aujourd'hui que les personnes qui aspirent à la présidence de la République ne prennent pas en compte, ou en tout cas pas suffisamment, ou parfois mal, tout simplement, les préoccupations des jeunes qui sont l'avenir du pays.
Dans cette enquête, élection 2022 vers une jeunesse oubliée, point d'interrogation, vous revenez également sur la santé mentale des jeunes durant cette crise sanitaire et après les différents confinements. C'est un élément important.
Oui, tout à fait. La situation des jeunes sur des aspects inhérents à la santé mentale sont particulièrement frappants. La question de la précarité également, mais pour revenir à la thématique, on a 60% des jeunes qui se disent exprimés, 58% d'entre elles et eux qui se disent anxieux, un jeune sur cinq qui cumule ses sentiments avec d'autres, comme la tristesse. Donc c'est vraiment une situation qui préexistait à la crise sanitaire, tout de même, je pense qu'il faut le rappeler, mais a été fortement exacerbée par celle-ci et continue malheureusement encore aujourd'hui.
Et c'est pourquoi la jeunesse, aujourd'hui, accorde une place importante à la question de la santé. C'est aussi ce qui ressort de cette enquête.
Oui, tout à fait. La santé, juste après les questions de climat, d'environnement et derrière encore les questions de pouvoir d'achat, sont au final les préoccupations qui vont plus faire pencher les jeunes vers un candidat ou un autre. C'est vraiment les sujets qui sont dans leur quotidien, qui les touchent particulièrement et en tout cas pour lesquels ils ont des sentiments très particuliers.
En tant que président de l'AFAGE, le premier syndicat étudiant, quel message souhaitez-vous adresser à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle suite à cette enquête ?
À partir du moment où on a pu mettre en avant le fait que les jeunes qui constituent aujourd'hui l'avenir du pays, du fait qu'ils ne soient pas suffisamment écoutés, du fait que leur situation ne soit pas suffisamment considérée par les responsables politiques, il appartient désormais aux personnes qui aspirent à la présidence de la République de les prendre réellement en compte, parce qu'il est impensable de penser l'avenir sans celles et ceux qui le portent.
Il y a un élément important également, ce sont les canaux de communication. Les responsables politiques utilisent-ils suffisamment, selon vous, les canaux de communication utilisés par la jeunesse aujourd'hui?
Concernant l'utilisation que les responsables politiques peuvent avoir des médias de communication qu'utilisent les jeunes aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'entre elles et eux ne s'y rendent pas forcément. En revanche, qu'ils puissent s'y rendre ou non, n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui, aucune personnalité politique, aucun responsable qui s'est présenté, en tout cas en tant que candidate ou candidat, la présidence de la République ne traite suffisamment, quel que soit le format, des thématiques qui vont concerner la jeunesse ou qui va l'intéresser.
Le président de l'AFAGE, le principal syndicat étudiant, Paul Maillot. Après avoir été prolongé à deux reprises, le plafond des titres restaurants à 38 euros par jour au lieu de 19 euros l'est à nouveau, un dispositif jusqu'à fin juin. Les titres restaurants pourront être utilisés les week-ends. Cette mesure, mise en place en juin 2020 pour soutenir l'activité des restaurateurs touchés par la crise du Covid-19, devait prendre fin le 28 février prochain. L'invité de Pluriel hier soir était Karim Amelal, ambassadeur de France pour la Méditerranée, fondateur du mouvement citoyen Pluriel, un mouvement qui souhaite notamment favoriser le microcrédit dans les quartiers populaires extrêmes.
Ce vers quoi nous souhaitons aller, c'est la promesse fondamentale de la République, c'est l'inclusion. C'est-à-dire comment est-ce que tous ensemble, nous réalisons un destin commun. pour aller vers ce destin commun, pour construire ce destin commun, il y a un certain nombre de mécanismes, il y a un certain nombre de verrous aussi qu'il faut lever, d'obstacles. La question des discriminations, de toutes les discriminations, des inégalités, ça fait partie de ces verrous qui nous empêchent de nous réaliser en tant que citoyens et de construire tous ensemble ce destin commun. Et puis, il y a une autre mécanique, un autre processus qui est très important, c'est comment est-ce que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, peut s'émanciper, sortir de son assignation, alors identitaire, culturelle, en termes de milieu social, de son territoire, pour se réaliser en tant que citoyen, c'est-à-dire pour réussir sa vie. C'est pas réussir en devenant millionnaire, loin s'en faut, il y a mille manières de réussir, mais c'est comment est-ce qu'on peut... Quand on est, par exemple, issu d'un quartier populaire, quand on est issu d'une zone rurale, d'un territoire défavorisé, comment est-ce qu'on peut s'affranchir de ces contraintes pour faire quelque chose, pour s'engager, pour entreprendre ?
Karim Amela, l'ambassadeur de France pour la Méditerranée, fondateur du mouvement citoyen Pluriel. Il était l'invité de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur radioorient.com. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi.